Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. C'est le jour 12 et le jour final du Festival du Nouveau Cinéma. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon collègue.
Pascal Plante qui se réveille parce que c'est le palais de clôture hier soir. Fait que soyez clément avec mon état. Mais ça va, non, je fais des blagues là, c'était vraiment pas si pire que ça. Mais on a eu droit à une belle soirée de clôture parce que ça aide toujours quand c'est doublé d'un bon film. C'est sûr que c'était pas mal meilleur que Camille Redouble.
Ouh!
Mais non, pour de vrai, j'ai vraiment aimé l'audace du festival d'avoir programmé La danse de la réalité d'Alejandro Jodorowsky en clôture. Je me reprends au podcast hier, j'ai dit que c'était son premier film en 15 ans. C'est pas vrai, en fait, c'est son premier long métrage en 23 ans. Son dernier film qui était en 1990. Qui était. Puis l'année d'avant, il avait fait le film Santa Sangre, qui est, à mon avis, peut-être son meilleur film. Peut-être historiquement moins important que ses films comme El Topo ou The Holy Mountain, mais pour moi, c'était son film le plus abouti artistiquement. Puis La danse de la réalité, pour vrai, waouh! Je vais y revenir, là, en fait. T'avais une intro sûrement, là, je te vole le spotlight, mais c'était vraiment un film de clôture très audacieux.
Ah non, j'avais pas d'intro, en fait. Je voulais qu'on revienne justement sur la cérémonie de clôture, puis que, sur les prix, peut-être.
Ben, c'est ça, sur les prix. Ben ouais, sur les prix. Hey, Paul, on n'est pas pire sur nos prédictions.
Ouais, effectivement, on avait pas mal tout guessé correctement hier. Fait que, ouais, bien content pour Diego Star pour les deux prix remportés, félicitations. Mm-hmm. Bien content pour Le Sion Sono, parce que souvent, tu sais, je connais du monde qui vont jamais écouter de films asiatiques parce que, bon, ils vont peut-être qu'ils ont une mauvaise idée ou peut-être qu'ils se disent « Ah, le cinéma asiatique, c'est tous des films contemplatifs ou lents. » Tu sais, des fois, on peut avoir des préjugés, mettons. Mais un film comme « Why Don't You Play in Hell » de Sion Sono, c'est vraiment un film délirant, fun, accessible. Si vous aimez, c'est ça, on parlait de Tarantino, de Edgar Wright, c'est pas mal dans les mêmes eaux. Donc, faites-vous plaisir. En espérant, c'est ça. Je sais pas si le prix va peut-être lui permettre une distribution en salle. Je sais que son dernier « Guilty of Romance », ben, son dernier. Un de ces derniers avait passé en salle. Il y en a quelques-uns qui n'ont jamais joué à Montréal. Mais c'est ça, donc un très bon film. On est bien contents. Le prix, bon, la grande Louve d'or. C'est-tu la Louve d'or?
Oui, c'est le film Haley de Amat Escalante que je n'ai pas vu malheureusement. Donc, je ne peux pas le commenter. Mais ça, c'est un film qui va être en salle dès le mois de novembre. En fait, le distributeur chez Ka Film d'Amérique était venu le présenter le film lors de son prix. Puis, donc, ça va être possible pour tout le monde de le visionner. Sinon, par contre, aujourd'hui, il rejoue. Eh oui, il rejoue à 5h à l'Excentris. Donc, c'est vraiment une grosse journée rattrapage aujourd'hui pour le FNC avec ô combien de bons films. Écoute, on peut quasiment les nommer en rafale, mais en plus de, justement, Ellie qui joue à 5h, il y a aussi le film Le Grand Prix Focus Air France qui est remis au film Gérontophilia. Toi, Paul, t'as un bémol autour de cette remise de prix-là, si je me trompe pas, hein?
Ouais, ben j'en avais déjà parlé en fait, puis j'ai fait une critique écrite, mais bon, après j'ai pas vu tous les films Focus, mais pour moi c'est un film correct, là, sans plus. Où l'idée, je pense, l'intention est beaucoup plus grande que le résultat.
D'accord. Mais bref, mais il joue à 3h à l'Excentris. Mais tu sais, en rafale, pour de vrai, il y a juste, mettons, au cinéma du parc. À 18h30, il y a Interior Leather Bar de James Franco. Tout de suite après, suivi de La Grande Bellezza. Pour moi, c'était un de mes coups de cœur du festival. Un gros film monumental, hyper ambitieux et qui n'a pas peur de ses ambitions aussi. Je trouve que c'est doublé d'une vision artistique sans compromis. Il y a, sinon, dès le début de la journée, donc dès 13h, écoute, on peut soit se taper Lola de Jacques Demy en version restaurée, un film que j'adore, mais l'ayant déjà vu, moi, je le revisionnerai pas, mais Jacques Demy, ça, c'est, on est dans mes cordes complètement. Ça, c'est à l'Impérial. Stray Dogs de Tsai Ming-liang, Alexandris, et A Touch of Sin au quartier latin de Jia Zhangke. Donc, juste ça, si on commence en force dès le début de l'après-midi. Il y a le Hong Sang-soo qui va jouer, et après ça, il y a Tel père, tel fils de Kore-eda, Le démantèlement dans sa seule projection du festival le soir à 20h30 à l'Excentris, et La danse de la réalité qui rejoue aussi à l'Excentris Fellini à 19h. Voilà.
Donc, grosse journée, c'est dimanche, la dernière journée. Pourquoi pas en profiter?
Mm-hmm.
Donc, revenons sur c'est ça, La danse de la réalité.
Oui.
Tes impressions plus détaillées, peut-être, le film, qu'est-ce que ça donne?
Ben, le film, OK, ben, je vais conclure sur l'audace festival de clore avec ce film-ci parce que, tu sais, les soirées d'ouverture et de clôture, c'est tu forces un peu les gens, tu sais, les gens de l'industrie à se plonger dans l'arène avec les cinéphiles, j'ai l'impression.
Ouais.
Tu sais, tu vois, la moitié de l'impérial est réservée parce que, bon, C'est quand même pas de la politique, c'est pas le bon mot, mais veux pas, ça reste une soirée de remise de prix, donc tout le monde est là. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça vraiment osé de forcer les gens à s'asseoir 2h10 de temps. 2h10 d'ailleurs, qui, soit dit en passant, passe très rapidement. Mais 2h10 de temps avec une espèce de vision fantasmée du passé autobiographique d'un artiste complètement en marge de tout. Alejandro Jodorowsky, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est vraiment un cinéaste qui est issu d'une espèce de vague de psychédélique. Là. El Topo, ça s'inscrit vraiment dans la fin des années 60. C'est le psychédélique. Ouais. C'était un genre qui était dans toutes les formes d'art, a été en musique, on en a eu énormément, mais en cinéma, il y a eu quand même ses tentatives. Puis Jodorowsky était quand même une figure de proue de ce mouvement-là. Ça serait réducteur de dire que c'est vraiment juste ça parce que lui est très versé dans. C'est souvent très ésotérique. On sait que lui, par exemple, il est très. Le tarot, par exemple, il croit beaucoup en ça, puis il a écrit des essais là-dessus. Toujours la religion, mais la religion dans ses symboles, il est vraiment fasciné par les croix, les étoiles de David, tout ça, puis tout ce que ça, toutes les déclinaisons de tous les symboles religieux. Il fait lui-même sa propre direction artistique et ça paraît parce que, d'un, c'est somptueux et c'est très riche et très baroque, mais c'est toujours au service d'un message peut-être caché. Puis moi, le symbolisme, je suis rarement fan, tu sais, mais chez Jodorowsky, c'est tellement imbriqué dans son cinéma que ça va au-delà de la simple interprétation métaphorique. C'est vraiment, ça crée un tout assez délirant, puis chaque truc a son sens, puis on peut le prendre, on peut le laisser, on peut être dépassé par tout ça, mais au final, ça crée un espèce de film, un film assez monumental. Ça m'a beaucoup rappelé le Amarcord de Fellini. L'histoire de la danse et la réalité, on est à Tocopilé, ça c'est une ville côtière chilienne, là où Jodorowsky est né. Et pour l'anecdote, Jodorowsky est né en fait de. Ben, il a eu une enfance très malheureuse, puis le film en fait représente peut-être cette espèce de jeunesse-là, mais dans tous ses excès et dans tous ses fantasmes, peut-être pour fuir une réalité qui était probablement beaucoup plus drabe. Juste pour vous dire, comme pour l'anecdote, il est né en fait du viol de sa mère par son père, parce que c'était un mariage abusif et le père de Jodorowsky avait accusé sa mère en fait d'avoir flirté avec un client parce qu'il c'est un propriétaire de magasin dans ce petit village-là. Et par conséquent, en fait, la mère de Jodorowsky l'a jamais vraiment aimé, puis son père était hyper autoritaire, le forçait. Bon. Donc, c'est un peu ce théâtre-là qui donne sur la danse de la réalité où on voit un jeune qui est constamment parti dans ses questionnements existentiels. Il se questionne déjà très tôt sur l'existence de Dieu, sur pourquoi qu'on vit, pourquoi on meurt, où est-ce qu'on s'en va. Son père est très pris dans ses idéaux politiques, mais le fils jamais, donc le jeune Alejandro jamais. On mélange aussi des images d'Alejandro Jodorowsky vieux, donc là maintenant il a 85 ans, donc il se met lui-même en scène pour peut-être doubler son alter ego quand il est enfant. Il fait aussi la voix off du film, donc il est très présent. Cela dit, ça dépasse clairement le cadre du film de Nombril. On est vraiment dans un film qui peut parler à beaucoup. Un film vaste parce qu'on parle d'histoire, hein, et être juif à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est pas peu dire. Être le fils d'un immigrant dans une ville chilienne aussi, c'est quelque chose. Mais donc, il y a énormément de déclinaisons sur le côté historique, sociopolitique. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est le deuxième film en deux soirs, bordel, qu'il y a un Golden Shower dans le film. Donc, peut-être une tendance cinéma d'auteur 2013. Non, en langue espagnole. Non, mais ouais, mais en tout cas, ça sert pas les mêmes fins dans la danse de la réalité, mais beaucoup d'imagerie un peu dérangeante. Mais
il y a mémoire qui se prépare là.
Ouais, c'est ça. Oh god. Donc c'était très décousu comme le film est un peu décousu. À un moment donné, le film à mon avis s'égare un petit peu lorsqu'on parle peut-être plus de l'histoire du père, le père qui part dans une espèce de quête solitaire pour aller assassiner le dictateur. Puis là il y a comme une longue séquence avec où pour moi on s'écarte de l'enjeu du film qui est le plus intéressant, soit le côté plus personnel de sa vie d'enfant. Vraiment une longue séquence, comme un 15 minutes, qu'on aurait pu pratiquement enlever ou très fortement abréger. Mais peut-être à part de quelques petites lacunes de rythme par-ci par-là, le film passe très bien, puis c'est Jodorowsky qui revient. Donc si vous aimez ce genre de cinéma-là, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Puis même à 85 ans, c'est encore le meilleur dans ce qu'il fait. Donc, à voir.
Voilà, donc merci Pascal. Et maintenant, comme c'est notre dernière journée, j'aimerais ça que tu nous fasses un bilan rapide. Donc, si tu avais un coup de gueule, ça serait quoi?
GFP Bonnie. Encore là, c'est pas de frapper sur un petit film comme pas full d'argent, puis j'en ai parlé au podcast, je pense, il y a deux jours. C'est pour moi, ça représente le mauvais du cinéma no budget, tu sais. Espèce de film d'auteur sans compromis, mais à force de faire des films sans compromis, est-ce qu'on se fiche du public? Donc, ouais, j'en dirais pas nécessairement plus, mais pour moi, c'est GFP Bonnie, ça a été probablement mon coup de gueule du festival. Et toi, Paul, je te retourne.
Non, attends, avant, un coup de cœur.
Ah, ouais. Un doublé, parce que j'aurais vraiment de la misère à les classer, mais on parle quand même de deux de mes films qui sont présentement dans mon top 5 de l'année, point. Ça serait peut-être deux palmes, une au Sion Sono, vraiment. J'en ai parlé, j'en ai reparlé, donc je dirais rien de plus. Et La Grande Bellezza. Deux films, puis je veux juste dire que mes coups de cœur au festival, en général, ça a été des films très vivants, très dynamiques, des films qui n'ont pas eu peur d'être à la hauteur de leurs ambitions aussi. Puis je dis ça, puis c'est pas peu dire, parce que me semble que cette année, de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma, a mis en scène, a présenté des films peut-être un peu plus dynamiques en moyenne que d'autres.
T'sais, peut-être optimiste aussi?
Ben, optimiste, mais je sais pas, mais parce que... Quand je peux dire ça, il me semble qu'il y a quelques années, la mode était un peu plus à un cinéma peut-être plus contemplatif, plus distant, plus dans l'intellect. On dirait que là, on en garoche, on en jette, puis il ne faut pas avoir peur d'en balancer plein la face au spectateur. C'est pas nécessairement toujours le genre de film que j'aime, ni rien, mais je trouve que La Grande Bellezza, par exemple, c'est un bon exemple. T'sais. Une espèce de vision d'auteur doublée d'une ambition qui déborde. Puis le Sion Sono aussi, je veux dire, il est hyper référentiel, mais il devient sa propre entité. Puis ça, j'aime ça. Donc, mes deux coups de cœur, ça adonne que ce sont deux films, justement, hyper vivants, deux films de plus de 2 heures, et voilà.
Parfait. Donc, le cinéma reprend ses lettres de noblesse.
Ben, ça fougue.
Ouais. Donc, mon coup de gueule, moi, ce serait le documentaire From Neurons to Nirvana.
T'en as parlé,
ça. J'en ai pas parlé au podcast, j'ai pas écrit de texte dessus, parce que bon, il y a tellement de bons films au festival, mon but, dans une année, là, on écoute beaucoup de mauvais films, puis j'aime toujours mieux me concentrer sur les meilleurs films, ben oui, parce que, par exemple, ça me fait toujours plaisir d'écrire un top 10 de l'année, mais j'écrirai jamais un worst 10, les pires 10 films de l'année, parce que je trouve que c'est perdre du temps et perdre de l'énergie. Donc, j'en ai pas parlé de ce documentaire canadien, qui selon moi est accepté au festival pour deux simples raisons. Une, parce qu'il est canadien et que, tu sais, c'est important dans les festivals canadiens d'avoir un certain quota de films locaux, entre autres pour les subventions, pour bien paraître, pour les partenariats, etc., ça paraît bien. Et aussi, on encourage l'industrie locale, c'est correct.
C'est une vraie volonté. Ouais.
Et la deuxième raison pourquoi le film a été accepté, c'est son sujet, en fait. En gros, c'est une trentaine d'entrevues style tête parlante avec des scientifiques de toutes sortes qui nous expliquent que la drogue, c'est bien, en gros. Et la forme est vraiment mauvaise, le film. Et il n'y a pas de point... C'est quasiment de la propagande, dans un sens. Puis le pire, c'est que dans le film, c'est ça, il y a plein d'effets style After Effects de base. C'est comme si quelqu'un s'est amusé avec un logiciel de montage à mettre tous les effets possibles pour essayer de rendre l'idée de la drogue puis du psychédélisme. Donc ça fait qu'en plus, ben, les entrevues, du coup, on les oublie puis elles sont comme moins importantes. Puis des fois, même, on travaille avec le son. Donc, quelqu'un va expliquer de quoi qui peut être intéressant. Il y a des informations pertinentes dans le film. Sauf que, soudainement, le son se dédouble, puis genre, l'image devient négative. Donc, c'est tellement enfantin, en fait, puis amateur. J'avais vraiment l'impression ça, d'écouter un film de... Tu sais, quelqu'un au cégep, genre, qui trippe ben trop au cinéma, puis que c'est la première fois de sa vie qu'il touche une caméra, puis là, il faut qu'il fasse tout, là, que c'est tous les settings. Mais c'était un peu ça que j'avais l'impression. Donc, c'est vraiment mon coup de gueule au festival. Puis,
Mais toi, plus que ça, là, t'as dit, comme, il me semble, après, tu m'en as parlé, t'avais les yeux, t'as dit, man, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, pratiquement.
Ah oui, clairement, là, je veux dire.
C'est vraiment si pire que ça.
Vraiment, ça m'a insulté parce que le sujet peut être intéressant, puis j'ai l'impression que les cinéastes, eux-mêmes, écoutaient leur rush, puis trouvaient ça tellement banal qu'ils se devaient de renchérir avec des effets un après l'autre, tu sais. C'est pas un film, là. Je veux dire, même à. Ça, c'est un film, là, que sur YouTube, ça serait considéré comme un film let, là, tu sais. Tu ferais comme. C'est donc même mal filmé. Il y a des entrevues, là, que le focus est même pas bien fait, tu sais. La mise au point est, mettons, sous le mur en arrière. Donc la personne est floue. Puis là, on peut dire, oui, mais c'est peut-être pour représenter l'effet de la drogue, etc. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, là, comme c'est facile de tout pardonner au nom de. Ça rentre en adéquation avec le sujet, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Je me suis vraiment fait chier à écouter ça. Mon coup de cœur, maintenant, ce sera pas un film en particulier. C'est vraiment l'expérience humaine du festival. Je trouve que ce festival-là, c'est le meilleur festival à Montréal. Je le disais même avant qu'on ait un partenariat avec le festival. On fait ça vraiment par passion du cinéma. On n'est pas payé pour faire ça. Et vraiment, toute l'équipe de la programmation, l'équipe de presse, les invités avec qui on a eu des entrevues, ça a été vraiment une belle expérience. C'est tellement plaisant pour moi d'avoir un prétexte pour pouvoir parler à des créateurs comme ça, du médium que j'adore. Et aussi toute mon équipe, hein, toi Pascal, qui m'a vraiment aidé beaucoup tout au long du festival. Toutes mes collègues, Samy, Olivier, Delphine, qui ont fait des textes. Rémi, on pense à lui, hein, il a été bien occupé avec le Kino Cabaret, je suis sûr qu'il a aimé ça voir plus de films, mais c'est vraiment, tu sais, toutes les affaires qu'on fait, je veux dire, c'est tellement récompensé quand le processus est aussi agréable, puis éventuellement aussi, hein, tous les auditeurs qui nous écoutent, puis les gens qui nous suivent sur notre page Facebook, c'est tout le temps le fun aussi d'échanger avec des cinéphiles, donc c'est vraiment ça mon coup de cœur, en fait, c'est vraiment une expérience agréable et humaine. Donc voilà, alors c'était notre podcast pour le FNC. Là, on va prendre une petite pause peut-être avant de revenir au podcast régulier. Là, on n'en fera pas demain. Là. Ouais, fait non. On va se laisser au moins une semaine de congé peut-être. Question de dormir un peu. Et on se revoit très bientôt pour notre épisode 73. Dans pas longtemps, c'est le Festival Cinémania consacré au cinéma français. Et RDM aussi.
Ben oui.
Donc, deux gros festivals à Montréal en novembre. Donc...
Ouais, puis on a la vie cinéma continue en dehors du FNC. Là. Ouais. Paul, on n'a même pas encore parlé de Gravity hein, au podcast. On n'a pas parlé de. Hein? Fait que là, il va falloir revenir aussi replonger dans les films de l'heure un petit peu
ouais,
aussi.
Et peut-être aussi savoir un peu le point de vue de Rémi, comment c'est passé de l'intérieur, le Kino Cabaret.
Ben oui, ça c'est sûr.
Donc, ben merci beaucoup de nous suivre. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau, j'étais avec mon collègue
Pascal Plante. À bientôt.